Interview du pasteur Paul Calçada.
Chères auditrices, chers auditeurs, que Dieu notre Père et le Seigneur Jésus-Christ vous accordent la grâce et la paix. Ce jour, nous avons la joie et le privilège, et j'ajouterai un qualificatif, l'immense privilège. Cela au regard de ce qui va suivre. Donc nous avons ce jour l'immense privilège d'accueillir à nouveau dans notre studio de FM Évangile 66 le pasteur Paul Calçada. Sois le bienvenu, Paul, sur cette antenne.
Merci Elios, merci à FM Évangile 66 de m'avoir à nouveau ouvert son antenne. Je souhaite également à toutes les auditrices et à tous les auditeurs que la riche bénédiction de Dieu vous soit renouvelée avec abondance.
C'est la cinquième fois que tu nous rends visite et il n'est pas superflu de dire que nos auditeurs apprécient ta présence à l'antenne. Merci Seigneur et gloire à Dieu. Dans les années 70, tu as été pasteur à Perpignan.
Et dans tout le département.
En effet, 6 années passées avec les Catalans. Plusieurs anciens, souhaitant te revoir, ont demandé pourquoi tu n'étais pas invité. Pour pallier à cet oubli, en ce qui nous concerne, avec l'accord d'André Nierga, président de FM Évangile, nous sommes heureux de t'inviter et ta participation est trimestrielle. Nous procédons sous forme d'interview. J'ai donc tout simplement nommé celle de ce jour « Question à Paul Calçada ». Et je précise que sur notre site web, pour ceux qui ont Internet, donc le texte de l'émission et le replay sera disponible à l'onglet « Messages », rubrique « Paul Calçada ». Les questions porteront naturellement sur l'enseignement que tu dispenses, sur les éditions Esdras qui publient les pensées du jour que tu écris, et aussi, si cela ne te semble pas indiscret, sur tes activités actuelles.
Mais comme l'a dit Oscar Wilde, les questions ne sont jamais indiscrètes, mais parfois les réponses le sont.
Très bien, mais toi, tu n'as rien à cacher. Un ami commun m'a demandé de tes nouvelles. Je l'ai orienté sur le site web de la radio, à la rubrique émission, puis je lui ai dit d'ouvrir l'onglet « Auteur Paul Calçada ». Dans l'interview intitulée « Pensée d'un mois », il trouverait des infos concernant tes nouvelles activités. Nous avons ce jour l'occasion de compléter ces informations.
Eh bien, c'est avec joie que je me prête à cet exercice, afin de satisfaire l'attente de nos auditrices et de nos auditeurs.
Lors de la précédente émission, nous avons laissé en suspens plusieurs questions.
En effet, et nous avions mentionné qu'elles seraient abordées lors des prochaines interviews.
Alors, dans un premier temps, nous te donnons l'occasion d'y apporter réponse. Nous avons beaucoup parlé argent, car c'est un des thèmes abordés dans les dernières publications des éditions Esdras. Le titre exact étant, je cite, « L'argent et le croyant ». Ce jour, prenons du temps pour aborder « Les temps de la fin », autre titre récemment publié. J'ai observé, ici et là, que beaucoup sont intéressés par ce sujet qui porte un nom savant, je cite, « l'eschatologie ». Toi, qu'en dis-tu ?
Mais écoute, pour ce qui est du mot « savant », je le laisse aux érudits. Je préfère utiliser les mots que tout un chacun peut comprendre. Donc, je parlerai des temps de la fin. Ces temps sont souvent mentionnés dans la Bible et ils suscitent de l'intérêt car ils évoquent des événements à venir. D'une manière générale, l'homme est à la recherche de réponses concernant l'avenir en général, mais aussi de son propre avenir. C'est ce qui explique le succès des horoscopes et de tous les diseurs de bonne aventure dans notre pays, qui cependant se prétend rationaliste et cartésien.
C'est toute la complexité du cœur humain. Tortueux par-dessus tout, comme dit l'Écriture. Voilà plusieurs décennies de cela, deux personnes qui faisaient du porte-à-porte ont sonné chez mes parents. Je leur ai ouvert. L'une des deux, sans se présenter, m'a immédiatement posé une question avec un débit très rapide, comme pour jouer sur l'effet de surprise. La question était, je cite, « Savez-vous ce qui est écrit dans Matthieu 24 ?»
Il y a de quoi être surpris par une question aussi abrupte. En fait, le thème de ce chapitre tourne autour, justement, des temps de la fin. Mais je reconnais dans ces deux personnes, tout comme les représentants de mouvements religieux qui ont cherché à découvrir le jour où ces événements se produiront et qui ont annoncé des dates concernant le retour de Christ, tous, sans exception, se sont fourvoyés. Il est important de rester humble face à ces événements et d'aborder cette question avec l'équilibre que nous enseigne l'Écriture.
Donc, avec cette simplicité qui te caractérise, qu'as-tu à nous dire concernant Matthieu chapitre 24 ?
Plusieurs points. Concernant les temps de la fin, ils sont mentionnés. Je relèverai celui du rassemblement des croyants. Il est écrit, « Il enverra ses anges et ils rassembleront ses élus des quatre vents, d'une extrémité des cieux à l'autre. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. De deux hommes qui seront dans les champs, l'un sera pris et l'autre laissé. Veillez donc, tenez-vous prêts. » Nous trouvons ce texte dans Matthieu, au chapitre 24, au verset 31 et 34. D'ailleurs, tout le chapitre 24 de Matthieu nous parle de ces événements. On peut lire quelques extraits de ce chapitre 24. « Il enverra ses anges avec la trompette retentissante, et ils rassembleront ceux qu'il a choisis des quatre coins du monde, d'une extrémité du ciel à l'autre. Tirez instruction de la parabole du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous savez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche, qu'il est à la porte. Le ciel et la terre disparaîtront, mais mes paroles ne disparaîtront pas. Quant au jour et à l'heure, personne ne les connaît, pas même les anges du ciel, ni même le Fils. Mon Père seul les connaît. Ce qui est arrivé à l'époque de Noé arrivera de même au retour du Fils de l'homme. En effet, dans les jours précédant le déluge, les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé est entré dans l'arche. Ils ne se sont doutés de rien jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Il en ira de même au retour du Fils de l'homme. Alors deux hommes seront dans un champ. L'un sera pris et l'autre laissé. Deux femmes moudront à la meule. L'une sera prise et l'autre laissée. Restez donc vigilants, puisque vous ignorez à quel moment votre Seigneur viendra. Vous le savez bien, si le maître de la maison savait à quelle heure de la nuit le voleur doit venir, il resterait éveillé et ne laisserait pas percer les murs de sa maison. C'est pourquoi, vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Ce texte est assez long. J'espère que cela ne vous a pas trop incommodé que je en fasse la lecture. Mais dans ce texte, aussi extraordinaire et incroyable que cela puisse paraître, un événement largement annoncé dans la Bible aura lieu, c'est le rassemblement des élus. Depuis le jour où Jésus fut ravi au ciel, sous le regard médusé des apôtres, comme nous le voyons dans Actes, chapitre 1, verset 9, donc depuis ce jour, jusqu'à ce jour, les croyants de tous les siècles ont attendu cet événement.
En effet, nous ne savons pas quand cela aura lieu, mais la Bible nous donne quelques indications au sujet du « comment », n'est-ce pas ?
En effet, voilà comment Jésus décrit la chose. Un jour, les élus seront rassemblés en un instant des quatre coins de la terre pour se retrouver avec lui. Pour prendre une simple image, ce sera comme lorsqu'on passe un aimant sur une surface. Il attire à lui toutes les limailles de fer. les autres métaux ou matières restent sur la surface. De même, ceux qui appartiennent à Christ seront attirés vers lui.
C'est extraordinaire. Mais y a-t-il d'autres textes de la Bible qui parlent de cela ?
Oui, bien sûr. L'apôtre Paul, en particulier, donne quelques indications au sujet de ce ravissement soudain. Il écrit « Nous ne voulons pas que vous soyez dans l'ignorance à l'égard de ceux qui sont décédés, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. » Il ajoute « Nous, les vivants, restez jusqu'à la venue du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont décédés, car le Seigneur lui-même, à un signal donné, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement, ensuite, nous, les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux à la rencontre du Seigneur dans les airs. » Nous trouvons cela dans la première épître aux Thessaloniciens, au chapitre 4, des versets 13 à 18.
Faut-il envisager cet événement comme étant lointain, ou bien faut-il l'envisager comme étant tout proche ?
Soulignons que pour les apôtres, cet événement était proche. Paul emploie l'expression « nous, les vivants ». Il pense donc que ce ravissement peut se produire de son temps. Les premiers disciples ne faisaient pas de spéculation pour déterminer le jour où cela allait se produire. Mais ils avaient compris qu'ils devaient, chaque jour, être prêts pour cet instant. Ils avaient pris au sérieux cette parole de Jésus « Tenez-vous prêts ». Ils vivaient chaque jour en pensant que ce pouvait être ce jour-là.
Donc, il faut vivre en pensant au quotidien que cela est possible aujourd'hui.
Oui, en effet, retenons ce grand principe biblique. Vis cette journée comme si c'était celle où Jésus revient te chercher. Jésus nous invite à être prêts aujourd'hui.
Que dirais-tu à nos auditrices et auditeurs pour qu'ils soient prêts ?
C'est tout simple. Pour être prêt, il suffit de reconnaître que nous sommes pécheurs et de recevoir le pardon qui nous est offert en Jésus. Une fois pardonné, laissons Christ vivre en nous et au travers de nous. Il n'est pas nécessaire de pratiquer une religion, quelle qu'elle soit. L'important pour chacun, c'est d'établir une relation personnelle avec Dieu par Jésus-Christ. D'ailleurs, je vous invite à faire cette simple prière. Seigneur, quel que soit le jour où tu viendras chercher les élus, aujourd'hui, demain ou un autre jour, je veux être prêt. C'est pourquoi je te demande pardon pour mes péchés. Je te reçois comme mon sauveur et je te demande de vivre en moi. Amen.
Nous écoutons une page musicale avant d'aborder, entre parenthèses, une question indiscrète. Cet été, grâce au web, je t'ai entendu et vu en direct avec le streaming de l'église MLK de Créteil. Précisons qu'il y a possibilité pour ceux qui ne suivent pas le direct de retrouver les messages en replay. Je sais que le nombre d'auditeurs perpignanais du département qui suivent ces émissions augmente de plus en plus.
Mais cela me réjouit.
Un aveu, Paul. En t'écoutant, j'ai appris des choses. Quand tu as parlé des richesses injustes, peux-tu faire un flashback, un retour en arrière sur cette prédication ?
D'accord, il n'y a pas de souci, avec plaisir. Donc, je rappelais la parabole des trois amis, mentionnée dans Luc chapitre 11, les versets 5 et 6. Et il est parlé donc d'un ami qui se trouve au centre de la parabole. C'est un ami qui a deux autres amis, il a beaucoup d'amis. Il est l'ami du voyageur perdu dans la nuit, et il est aussi l'ami du voisin qui est déjà couché. Il a des amis qui viennent de loin, et ses voisins aussi sont ses amis. Il a des amis qui sont nantis comme son voisin, et des nécessiteux comme celui qui vient de loin. Et utilisant cette parabole, j'ai rappelé que pour remplir notre devoir missionnaire, Jésus nous recommande de nous faire des amis. Et moi, je vous dis, dira Jésus, faites-vous des amis avec les richesses injustes, pour qu'ils vous reçoivent dans les tabernacles éternels quand elles viendront à vous manquer. C'est dans Luc chapitre 16, verset 9. Alors, quelles sont ces richesses que Jésus qualifie d'injustes ? Citons, entre autres, la santé, le temps, l'argent, l'éducation, la nourriture, la technique, les locaux, les bâtiments, etc. L'amitié exige donc de s'investir en partageant les richesses dont nous disposons avec ceux qui en pâtissent. Voilà pourquoi, entre parenthèses, soigner, instruire, nourrir, creuser des puits, donner du pain aux affamés, c'est être missionnaire.
L'injustice est donc dans le fait que les droits à la santé, à l'éducation, à la nourriture, à l'argent, ne sont pas les mêmes pour tous sur cette terre.
En effet, et cela est bien su, bien connu. Dans les pays du tiers-monde, il y a énormément de pauvreté et les soins sont très rudimentaires, pour ne pas dire parfois inexistants. Et donc se faire des amis en partageant ces richesses dont nous disposons, c'est offrir à ceux qui en sont dépourvus la possibilité en même temps de découvrir l'Évangile. Si on veut se faire des amis, eh bien il faut de la disponibilité, de la générosité, en un mot. Il nous faut un cœur grand comme celui de notre maître qui a dit « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis » dans Jean chapitre 15, verset 13. Cette exigence de la mission, certains l'ont bien comprise dans les siècles passés et d'autres continuent à la vivre au quotidien. Un ami, entre parenthèses, qui nous était cher, nous a quittés fin juin. Et il en avait fait sa ligne de conduite.
Je suppose que tu veux parler de notre ami Oscar Calcani. Peux-tu préciser en quoi il a partagé ses richesses injustes ?
Cet homme, généreux et disponible, accompagné de son épouse Odette, a ouvert sa maison à des centaines de personnes démunies. Avec Odette, ils ont partagé leur nourriture, les médicaments dont ils disposaient. Ils ont transformé leur pièce principale en salle de classe pour enseigner l'écriture et la lecture à de nombreux jeunes. Oscar a partagé son savoir-faire en construisant trois barrages qui ont permis d'abreuver bêtes et champs de plusieurs villages. Le frère Oscar a servi pendant 22 ans dans la région de Boromo au Burkina Faso. Il a implanté 37 églises, formé 44 pasteurs, soutenu la construction de 46 églises et de 28 logements de pasteurs. Il s'est fait des milliers d'amis, dont un très grand nombre ont accepté le message de l'Évangile.
Bel exemple, en effet. L'occasion donc de rappeler cette exhortation donnée par l'auteur de l'Épître aux Hébreux. Je cite « chapitre 13, verset 7, « Souvenez-vous de vos anciens dirigeants qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Pensez à la façon dont ils ont vécu et sont morts et imitez leur foi. » Le mot « injuste » qualifiant les richesses, m'avait aiguillé sur une autre piste plus négative, celle des richesses acquises malhonnêtement. Mais ton éclairage aide mieux à comprendre la pensée émise par le Seigneur.
Merci. D'ailleurs, sur place à Créteil, plusieurs m'ont fait la même remarque.
Tout en encourageant, ton service apporte un enseignement très clair et enrichissant. Que le Seigneur en soit loué. Très apprécié partout où tu t'exprimes, devant ton auditoire, ou en ligne, à la radio, comme aujourd'hui. Je rappelle que tu as écrit un recueil intitulé « Lueur du matin » dans lequel sont consignées 365 pensées réparties en 12 thèmes. En clair, une ligne conductrice par mois, avec une pensée pour chaque jour. Excellent comme cadeau à offrir en fin d'année. Où nos auditeurs, s'ils le souhaitent, peuvent-ils se le procurer?
Je pense qu'ils peuvent le trouver au comptoir librairie de l'église qu'ils fréquentent. Si ce n'est pas le cas, ou s'ils ne fréquentent pas d'église, ils peuvent le commander à l'adresse suivante, édition Esdras, 11 boulevard Ferdinand Buisson, 11200 Lézignan-Corbières. On peut aussi se le procurer à la CLC ou aux éditions Viens et Voix. L'impression par un imprimeur professionnel a un coût, c'est pourquoi ce livre est vendu 25 euros port inclus. Mon travail, par contre, est offert. Dans cette perspective, je signale à nos auditeurs et auditrices que j'ai remarqué que tu fais attention à saluer et mentionner les auditrices. Je signale donc que ces pensées du jour sont disponibles gratuitement au jour le jour sur le site Lueur du Matin, accessible en passant par Google. Abonnez-vous gratuitement avec cette adresse, avec votre adresse mail.
Les quatre fascicules, à savoir, je cite, la fidélité dans tous ses états, être des artisans de paix, la mission et l'Église, leçon du patriarche Jacob, qui viennent compléter une série déjà très intéressante, seront-ils sortis de presse?
Pas encore. Ils sont en finalisation de mise en page. Ils devraient être édités en fin d'année.
Dans les titres déjà publiés, il y a « Leçon biblique du monde végétal ». Peux-tu nous en donner un exemple après cette nouvelle pause musicale? Donc, comme annoncé, entrons dans le monde végétal.
Alors, bienvenue. L'un des arbres fréquemment cités dans la Bible est le palmier. Je vais donc partager quelques réflexions que nous suggère cet arbre.
Il me semble que cet arbre est mentionné pour la première fois dans le livre de l'Exode.
En effet, lors de leur sortie d'Égypte, les Hébreux vont arriver à Élim où il y avait 12 sources d'eau et 70 palmiers. La Bible dit qu'ils campèrent là, près de l'eau. Exode chapitre 15, verset 27. Ceci nous rappelle que le palmier est essentiellement l'arbre des oasis dans le désert. Là où sont des palmiers, il y a de l'eau. Trouver des palmiers dans le désert, c'est avoir l'assurance de trouver de l'eau, de l'ombre, et c'est donc la vie. Le palmier symbolise le repos, la vigueur dans l'aridité, l'espoir dans le désert. Le palmier a les pieds dans l'eau et la tête sous les rayons ardents du soleil. Les croyants sont comparés au palmier. Dans le psaume 92, versets 13 à 16, il est dit que les justes croissent comme le palmier. Cette comparaison est une invitation à être nous aussi des repères pour les personnes égarées dans le désert de leur vie, dans la détresse de leur solitude, que nous puissions leur dire qu'il est possible d'être désaltéré à la source qui nourrit notre âme. D'autre part, comme le palmier, plongeons nos racines dans les profondeurs de l'amour de Dieu, puisons l'eau qu'il nous offre en Christ. Si quelqu'un a soif, a dit Christ, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Jean chapitre 7, verset 37. Alors, comme le palmier, que nos têtes soient recouvertes du feu du Saint-Esprit, comme il est mentionné dans le livre des Actes, des langues semblables à des langues de feu se posèrent sur chacun d'eux. Actes chapitre 2, verset 3.
Cette image est très intéressante et inspirante pour nous rappeler l'importance de notre présence dans le monde. Peux-tu nous en dire plus sur le palmier ?
J'ajouterai au sujet du palmier que pour croître harmonieusement, le palmier a besoin de l'eau et du soleil. Si l'eau symbolise la parole de Dieu et le feu du soleil symbolise l'Esprit Saint, ceci nous indique que nous avons besoin d'avoir une foi équilibrée dans laquelle l'Esprit et la parole se complètent. Nous avons besoin à la fois de la parole et de l'Esprit.
Je reconnais là ta particularité. Tu es un amoureux de l'équilibre spirituel. D'ailleurs, c'est un thème que tu abordes dans le livre « Lueur du matin ». Que pourrais-tu ajouter au sujet du palmier ?
Alors, il existe une grande diversité de palmiers, ce qui me permet de faire une multitude de choses avec tous ces divers palmiers. Ils servent à l'alimentation, par exemple les cœurs de palmiers, les fruits, l'huile. On peut aussi fabriquer une multitude d'objets, mobilier, paniers, cabanes. Cette multiple utilité est l'image de toutes les œuvres que nous sommes appelés à accomplir. Dans la diversité de nos dons, pour le bien de tous ceux qui nous entourent.
Merci de nous rappeler cette diversité de dons, d'appels, de ministères que le Seigneur a donné à l'Église. Nous sommes tous au service du Maître qui nous a sauvés. As-tu autre chose à ajouter au sujet du palmier ?
Bien sûr, on peut ajouter encore que c'est sous ce palmier ou un palmier que Déborah, la prophétesse, rendait la justice. Il est écrit qu'elle siégeait sous le palmier de Déborah, entre Rama et Bethel, dans la montagne d'Éphraïm. Et les enfants d'Israël montaient vers elle pour être jugés. Juges chapitre 4, verset 5. Le tronc des palmiers est droit, sans branche adjacente. Quel merveilleux symbole de la droiture! C'est sous ce symbole de la droiture que Déborah rendait la justice. Nous pouvons en faire une application pour nous en tant que croyants. Nos œuvres doivent être justes et droites. Combien d'hommes et de femmes se sont éloignés de la foi à cause des comportements iniques de certains croyants. Inversement, de nombreuses personnes ont trouvé le chemin de la foi à cause de la droiture des croyants qu'elles ont côtoyés. Un conseil pour ce jour. Soyez comme cet arbre planté près de la source, dont le feuillage est toujours vert et qui donne un fruit abondant, comme le dit le psaume 1er au verset 3.
Voilà de quoi nourrir notre réflexion. Mais as-tu une autre plante à citer à nos auditrices et auditeurs?
Je prendrai trois petites plantes aromatiques citées par Jésus. La menthe, la nette et le cumin. Il cite ces plantes lorsqu'il dit aux religieux de son temps « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la nette et du cumin, et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. » C'est dans Matthieu chapitre 23 et au verset 23. Donc Jésus fait remarquer à ses religieux qu'ils s'arrêtaient sur des détails et négligeaient le cœur même de la loi. La menthe, la nette qui est une sorte de fenouil, et le cumin étaient utilisés pour aromatiser la nourriture ou bien pour parfumer les lieux de vie. Les Juifs ramassaient ces plantes et les revendaient en petites bottes pour trois fois rien. Ils veillaient à reverser scrupuleusement le dixième du misérable profit qu'ils en retiraient et à donner le dixième de leur récolte pour parfumer le temple. Orgueilleux et satisfait d'observer la loi sur ces petits détails, ils négligeaient de mettre en pratique les valeurs éternelles de la justice, de la miséricorde et de la fidélité.
Mais que représentent ces trois plantes aromatiques ?
La menthe, la nette et le cumin représentent toutes ces petites choses qui agrémentent la vie, assaisonnent l'existence et pour lesquelles nous sommes reconnaissants à Dieu. Par exemple, un bon repas, une fête d'anniversaire, un beau film, etc. Mais il convient de ne pas oublier les valeurs morales qui fondent l'harmonie des relations humaines et donc le bonheur des autres. La justice, la miséricorde et la fidélité.
Pardon.
Excusez-moi. Jésus nous rappelle que vivre égoïstement pour ses petits plaisirs, sans manifester la moindre attention à ceux qui souffrent d'injustice, de pauvreté et de solitude, c'est passer à côté du vrai sens de la vie. C'est là qu'est le malheur.
Y a-t-il un autre symbole derrière cette image donnée par Jésus ?
Oui, bien sûr. La menthe, la nette et le cumin symbolisent les aspects rituels de la loi. La justice, la miséricorde et la fidélité représentent les aspects moraux de la loi. Lorsque par esprit religieux nous éprouvons une satisfaction à observer toutes sortes de rites accessoires et secondaires et que nous négligeons les fondements moraux de la loi divine, nous passons à côté de l'essentiel.
En d'autres mots, Jésus nous parle de ces croyants qui vont aux offices, prient, lisent la Bible, offrent leur dîme, jeûnent, et qui perçoivent une allocation indue, qui travaillent au noir, qui font de fausses déclarations des revenus, qui trompent leurs proches, qui n'ont aucune compassion envers les blessés de la vie, qui vous parlent respectueusement par devant et vous calomnient par derrière.
Voilà, tu as fait une bonne description. En effet, les pires ennemis de la foi, ce sont eux. Ils sont fiers d'observer certains détails de la loi, mais ils oublient l'essence même du cœur de Dieu. Ceci nous amène à nous questionner sur notre manière de vivre la foi. Il est important que notre pratique de la foi ne se limite pas à une multitude de gestes rituels et routiniers, qui, même s'ils ont un certain sens, ne doivent pas supplanter la pratique des fondements moraux de la loi de Dieu, qui sont l'amour, la justice et la fidélité.
Je rappelle que ce que tu viens de nous expliquer se retrouve dans le fascicule « Leçon du monde végétal ». Cette série de fascicules, à cause des frais d'impression, sont vendus 6 euros chacun.
Toutefois, comme déjà dit, notre objectif n'est pas de faire du commerce. Les éditions Esdras proposent le lot des 18 titres à 70 euros port inclus. C'est une excellente opportunité, comme tu l'as dit, Elios, pour faire des cadeaux de qualité en fin d'année.
Nous voici au terme de cette émission. Merci encore, cher pasteur Paul, comme disent les frères africains, de nous avoir entraînés dans ces réflexions qui, tout en nous enseignant, nous encouragent. Je rappelle que, Dieu voulant, nous nous retrouverons le trimestre prochain, puisque cette émission à laquelle tu apportes ta contribution est trimestrielle, car ton ministère est très apprécié et tu as des engagements de plus en plus nombreux en Alsace, en région parisienne.
En effet, dans 15 jours, du 1er au 5 novembre, je serai au Tabor, près de Münster, pour un séminaire sur le thème de la souffrance. Si quelqu'un était intéressé, il peut voir les modalités d'inscription en allant sur la page Facebook du Tabor, Maison de ressourcement évangélique. Lors de mon dernier déplacement en Normandie, un engagement de service mensuel dans une assemblée s'est ajouté.
Je m'en réjouis. Un agenda bien chargé donc. Ça nous aide à mesurer la faveur, comme j'avais dit, immense que tu nous fais en venant jusqu'à nous. Un grand merci de la part des auditeurs. Que le Seigneur vous bénisse, chères auditrices et chers auditeurs. Merci pour votre fidélité. Amen.
Au revoir.